Une vie, une œuvre. Bonjour à toutes et à tous. Calouste Gulbenkian, 1869-1955. Aujourd'hui, dans le cadre de la semaine spéciale consacrée par France Culture au centenaire du génocide arménien, Une vie, une œuvre vous entraîne du côté de la vie et vous invite à voyager du Bosphore à l'Atlantique à la suite de Calouste Gulbenkian. Suivez donc cet homme d'affaires avisé, doublé d'un philanthrope, d'Istanbul où il est né, jusqu'à Lisbonne, où la fondation qui porte son nom rayonne aujourd'hui à travers le monde. Car Gulbenkian, millionnaire à 30 ans, chassa toute sa vie les trésors des champs pétrolifères aux galeries d'art, de la France de Vichy à la dictature de Saint-Lazare. Et ce pour constituer in fine l'une des plus belles collections qui vous sera jamais donnée de contempler. Calouste Gulbenkian, monsieur 5%, roi du pétrole et grand collectionneur d'art, un documentaire d'Élise Gruot et Manouchak Fachaï.
Señor, una pregunta.
Diga, diga.
¿Conoce la Fundación Gulbenkian?
Sí, la Fundación Gulbenkian es muy conocida. Es la mayor fundación de Portugal. La Fundación Gulbenkian es la mayor fundación de Portugal.
Um ano depois é comprada a Varig, engenharia e manutenção.
Calouste Gulbenkian, c'est un personnage assez complexe, que c'est très difficile de définir. Nous sommes en train de l'étudier tout le temps et il y a des facettes que nous comprenons, il y a des autres qu'on cherche toujours. Je m'intéresse surtout dans sa facette de collectionneur, mais c'est toujours difficile de l'apparter de sa facette humaine, de sa facette businessman, d'homme comme quelqu'un qui vit dans un monde en transition. Il a vécu deux moments très importants au XXe siècle, les deux guerres, et le fait qu'il était né dans l'Empire ottoman avec son background arménien, et en même temps quelqu'un qui a voyagé partout. Il a fait une expérience à Lisbonne, et ça c'est très bon pour nous. Nous avons profité de sa... existence ici à Lisbonne et d'avoir sa collection et sa fortune aussi. Hein.
Calouste Gulbenkian, monsieur 5%.
Calouste Gulbenkian.
Oh, yeah, Calouste Gulbenkian. I know that there is one museum here. Oh. A full stop.
Museum. There's a library and other things. I never entered in the museum or the library, only in the garden.
Do you know where he come from? Gulbenkian?
I have no idea.
Si à Lisbonne, le nom de Gulbenkian évoque la fraîcheur des jardins de la fondation qu'il a créée, où les soirs d'été résonnent les notes de ses orchestres et les échos des visiteurs de son musée, pour Paris, Londres ou Istanbul, il est un personnage clé du pétrole. Pour d'autres encore, il est cet immense collectionneur d'art qui a rassemblé des œuvres depuis l'Égypte antique jusqu'aux impressionnistes en passant par la Renaissance italienne. Qui était cet enfant du Bosphore et de l'Empire ottoman, l'un des Arméniens les plus connus au monde? Fondation Calouste Gulbenkian, Lisbonne.
Ah oui. Tenho plena consciência de que é tempo de tomar uma decisão sobre o futuro das minhas obras de arte. Posso dizer sem receio de exagero que as considero como filhas e que o seu bem-estar é uma das preocupações que me dominam. Representam 50 ou 60 anos da minha vida, ao longo dos quais as reuni por vezes com inúmeras dificuldades, mas sempre exclusivamente guiado pelo meu gosto pessoal. É certo que, como todos os colecionadores, procurei aconselhar-me, mas sinto que elas são minhas, de alma e de coração. C'est en pleine conscience que je prends la décision concernant le futur de mes œuvres d'art. Je peux dire sans exagérer que je les considère comme mes enfants et que leur soin est une de mes préoccupations majeures. Elles représentent 50 ou 60 années de ma vie, tout au long desquelles je les ai rassemblées au prix parfois de nombreuses difficultés, mais toujours exclusivement guidées par mon goût personnel. Il est certain que, comme tous les collectionneurs, J'ai cherché à être conseiller, mais je sens bien qu'elles font partie de mon âme et de mon cœur. Carlos Gulbenkian, Lisbonne, le 10 février 1953.
Qu'est-ce que vous en pensez de cette phrase?
Je pense que cette liaison au cœur, à son âme et à son cœur, c'est vrai, je crois que c'était un collectionneur passionné.
Ana Paula Ribeiro Correia, responsable du service éducatif.
Je pense qu'il est très sincère aussi quand il explique qu'il était exclusivement guidé par son goût personnel, mais il ajoute, il a toujours cherché à se conseiller pour ses achats. C'était un homme très préoccupé par la vérité des choses, je pense. Donc, il voulait être le mieux renseigné possible, et sa bibliothèque révèle ça, révèle qu'il cherchait tout le temps dans l'étude, quelque part.
Et il emploie l'expression de « les œuvres d'art sont comme mes enfants ».
Oui, oui. Il dit que je peux dire sans exagérer qu'il les considère comme mes filles.
C'est un père qui a le souci de ses enfants.
Oui, et c'est un père qui a créé une maison extraordinaire pour accueillir ses enfants. Quand vous pensez au musée et à la façon dont il a soigné la disposition, l'accueil de ses œuvres d'art. Oui.
Le musée Gulbenkian, ce sont 6000 œuvres d'art qui constituent l'une des plus grandes collections privées au monde.
Quand on a fait le musée, en fait, on a photographié tout ce qu'il avait dans sa maison pour essayer de maintenir dans les collections qui suivent une structure qui est un petit peu en rapport avec ce qu'il avait. Et vous allez voir en traversant le musée que toute la partie antiquité, Orient islamique, Proche-Orient est en pierre. Et quand on entre en Europe, tous les matériaux c'est du bois et du textile. Parce qu'on a essayé d'avoir qu'il y ait un rapport. C'est-à-dire que, en fait, quand on a construit ce musée en 69 à Lisbonne, même du point de vue de la muséographie, c'était quelque chose de tout à fait pionnier. Pour la première fois, on articulait un espace avec la collection qui venait dedans. Et il y avait la relation avec la nature. Donc on a vraiment essayé de garder des choses qui étaient très importantes dans l'esprit du collectionneur.
Alors, Carlos Gulbenkian était à la fois un très grand architecte d'entreprise, un collectionneur d'art et aussi un philanthropiste.
Jonathan Conlin, professeur d'histoire, chercheur en cours de rédaction d'une nouvelle biographie de Carlos Gulbenkian.
Ce qui est intéressant, que c'est quelqu'un qui était né parmi la capitale d'un très ancien empire, l'Empire ottoman à Istanbul, mais qui après s'est transféré en Europe, en la France et en Grande-Bretagne, et qui est devenu un des plus grands magnats pétroliers du monde. À son décès en 1955, il était un des plus riches hommes du monde. C'était un espèce de Talleyrand ou un Napoléon d'entreprise pétrolière. Et tout le monde, à l'époque, lui connaît sous l'étiquette Monsieur 5%.
Jean, qui est Carlos? Ah, c'est Jean qui sait. Qui est Carlos? Carlos de Gulbenkian.
Monsieur 5%. Ça veut dire qu'il pourrait lever 5% sur toutes les productions de pétrole, tout simplement. Et il a fait une super belle collection. Il a fait une très belle collection.
Vous l'avez vu ?
Pas encore.
Comment Gulbenkian a-t-il pu réunir une telle collection ? D'où provenait sa fortune ? Comment est-il devenu le célèbre monsieur 5% du pétrole ? L'esthète passionné était doublé d'un homme d'affaires qui favorisa les premiers consortiums pour l'exploitation du pétrole au Proche-Orient. Mais qui était-il et comment parvint-il à jouer ce rôle? Pour le comprendre, il faut repartir de Lisbonne vers l'autre extrémité de l'Europe, sur les rives du Bosphore.
Je suis Martin Essayan. Je suis l'arrière-petit-fils de Carlos Gulbenkian. Carlos Gulbenkian est né sur la rive asiatique de Constantinople, dans une famille arménienne. Ses deux parents étaient arméniens et tous les deux étaient des Gulbenkian, ils étaient des cousins éloignés.
And the family originally came from an area called Vaspurakan,
La famille était originaire de Vaspurakan, près du lac de Van, à l'est de la Turquie actuelle.
And about in the 11th century, they were moved by the Byzantine government to Caesarea.
Au 7e siècle, la famille a été déplacée vers Césarée par le gouvernement byzantin qui voulait éloigner les Arméniens des frontières.
They were given new land there, and they were there for several
hundred years. Ils y restèrent pendant plusieurs siècles.
And then in the early 19th century,
au début du 19e siècle, les Gulbenkian arrivèrent à Constantinople. Le père de Calouste, Sarkis Gulbenkian, et son oncle, Serop, qui créèrent le siège de l'entreprise familiale à Constantinople. Calouste Gulbenkian était une personne très ambitieuse. Il voulait se rapprocher à la fois des amiras, qui étaient les familles arméniennes les plus importantes de Constantinople, et du sultanat. La façon la plus classique d'y parvenir était de trouver une jeune fille de très bonne famille, et cette jeune femme était Nevart Esayan. Les Essayan étaient mieux établis que les Gulbenkian à Constantinople. Ils étaient là depuis trois générations. En se mariant à Nevart Esayan, Calouste Gulbenkian obtint de précieux contacts qu'il utilisa abondamment toute sa vie. Il gravit un échelon décisif pour son ascension sociale.
Je crois vers 1850, son père et son oncle, Sarkis et Serovpe, se déménager à Istanbul. Et là-bas, ils fondaient un nouveau siège de leur entreprise familiale qui a été marchand, aussi mi-banquier, qui a exporté, importé les choses comme opium, le coton, aussi le tabac, avec les branches partout dans l'Empire ottoman, mais aussi à Liverpool et à New York aussi. C'était une famille déjà très entreprenante et aussi active comme agent d'échange à toutes les villes de Moyen-Orient.
Et donc le Calouste grandit dans cette famille déjà de commerçants qui font de l'import-export. Et où est-ce qu'il fait ses études ?
Il a fait ses études au début dans une école arménienne. Mais avec seulement 14 ans, son père lui a envoyé à Marseille pour habiter avec son oncle, apprendre le français. Aussi, il a fait quelques cours auprès de l'école de commerce. Mais il est resté là seulement quelques mois parce que le bourse était toujours de lui envoyé en Grande-Bretagne, parce que le bourse le plus important du monde à l'époque était à Londres. Et c'était là-bas où il y a aussi beaucoup de choses à faire pour une entreprise comme le Gulbenkian frère qui veut s'agrandir.
Donc Calouste est envoyé par son père étudier à Londres. Dans quelle école, dans quelle université ?
À King's College, il a étudié quelques cours, la chimie, la géologie, aussi dans les langues anciennes. Il a fait beaucoup de disciplines différentes pendant ces trois ans. Alors, c'est pas strictement formation ingénieur. Et je crois que pour le père, c'est important parce que les classiques et la littérature classique et la littérature anglaise aussi sont importants, pas seulement pour la vie sociale, mais aussi pour un père qui était naturellement inquiet que son propre fils joue un rôle dans la société anglaise.
Extrait de la Revue des Deux Mondes, Calouste Gulbenkian, 1891. L'Apcheron fut le berceau d'une des plus vieilles religions du monde. C'est là qu'est né le culte du feu, le masdéisme de Zoroastre. Selon les fidèles, les flammes qui sortent du sol brûlent depuis le déluge et ne s'éteindront qu'à la fin du monde. Depuis 25 ou 30 siècles, l'Apcheron et ses flammes sont célèbres chez les peuples de l'Antiquité. Hérodote mentionne les sources de Zacynthe, Pline, celle de Sicile, Plutarque, celle d'Ecbatane et de Babylone. Il nomme cette huile minérale en latin Petrolaum. Médée aurait enduit de pétrole la tunique de sa rivale Créuse, pour la faire brûler au voisinage des flambeaux d'Hyménée. Le centaure Nessus, on le sait, s'est ainsi vengé d'Hercule. Il est même étonnant que l'emploi de cette substance ne soit pas signalé plus tôt, puisque le grand Alexandre fit brûler devant lui un pauvre enfant enduit de pétrole et illuminait la ville de Babylone le jour de son retour triomphal par l'inflammation de deux ruisseaux de naphte disposés le long des rues.
Ingénieur diplômé du King's College de Londres à 18 ans, Calouste Gulbenkian est envoyé par son père voyager dans le Caucase, à la découverte des premières exploitations de pétrole. Il en rapporte un texte étonnant, à la fois récit de voyage, étude ethnologique des peuples caucasiens et observation de l'industrie pétrolière naissante. À seulement 21 ans, le jeune homme est publié par la célèbre Revue des Deux Mondes.
Depuis une douzaine d'années, on va en chemin de fer de Batoum à Tbilissi et à Bakou. Dans cette dernière ville, au sortir de la gare, un cocher tartare en costume national voulut bien nous conduire, voyageurs et bagages, au grand hôtel de Bakou. J'essayais, avant de m'engager dans la ville, de me représenter par l'imagination les merveilles qui allaient frapper mes yeux. Je voyais la vieille cité persane, les vestiges de la domination des chats et des terribles khans tartares, les flammes éternelles et les guèbres adorateurs du feu. À deux pas de la Perse, à 24 heures de l'Asie centrale, je trouvais une ville moderne. Bientôt, l'odeur du pétrole me saisit aux narines. On utilise jusqu'aux résidus des raffineries de naphte pour l'arrosage des rues. La terre prend bientôt la consistance de l'asphalte. Les rues, ainsi arrosées et pavées, n'ont jamais ni boue ni poussière. Et quant à l'odeur du pétrole, on s'y habitue, paraît-il, assez rapidement.
Cette vision du progrès, ce pétrole abondant recouvrant la poussière des villes, est le point de départ d'une invitation que le jeune ingénieur adresse aux capitaux européens pour investir dans le pétrole russe. Promesse de prospérité et d'une manne dont Calouste Gulbenkian se fait le garant. Tout est déjà présent en 1891.
On ne redoute plus aujourd'hui l'épuisement prochain des gisements de houille, car les pétroles si abondants de Transcaucasie et d'Amérique pourraient aisément servir de combustible dans les diverses machines à vapeur. C'est le premier de ces pétroles que nous nous proposons d'étudier aujourd'hui. Soit que les voyageurs, au sortir de ces régions pittoresques, aient reculé devant le désert du Mougan et les hauteurs désolées de la péninsule d'Apcheron, soit que l'industrie du pétrole, encore peu développée, n'ait pas attiré leur attention, on ne sait pas très bien encore dans quelles conditions cette industrie fonctionne à bas coût. Le détail est mal connu. Nous essaierons de combler cette lacune grâce aux renseignements que nous avons pris nous-mêmes au cours de notre voyage. Nous voudrions inspirer à quelques ingénieurs français le projet d'aller enfin dans le pays du pétrole. Il leur serait facile d'améliorer à bien des égards le forage et l'exploitation des puits, ainsi que le raffinage du naphte. Ils trouveraient les moyens d'utiliser toutes les substances aujourd'hui jetées à la mer et qu'on vend ailleurs au poids de l'or. Ce jour-là, la rivalité du pétrole de Bakou et du pétrole d'Amérique sur les marchés d'Europe ne serait plus qu'un souvenir.
Martin Essayan.
Le voyage vers Bakou, chez les gens qui connaissent Calouste Gulbenkian, a pris une signification mythique. On en parle comme du voyage initiatique. Ce qui est en partie vrai, en partie faux. Ce qui, je crois, est très important, c'est de lui avoir permis d'être publié dans la célèbre Revue des Deux Mondes et d'apprendre beaucoup sur l'industrie du pétrole. Il faut bien comprendre l'importance de cette publication dans la Revue des Deux Mondes. Je suis persuadé qu'elle a été essentielle aussi pour attirer l'attention du sultan. Et se voir ainsi confier une étude sur les ressources en pétrole de l'Empire ottoman. Et elle a été capitale pour convaincre le sultan qu'il s'agissait d'une question à prendre très au sérieux.
Calouste Gulbenkian participe à l'évaluation des ressources pétrolières de l'Empire ottoman pour le compte du sultan, qui l'a nommé conseiller économique. Dans la même période, il spécule sur les mines d'or et de diamants en Australie et en Afrique du Sud. Enfin, il crée la compagnie pétrolière turque TPC, qui octroie des concessions aux investisseurs européens. Devenu l'intermédiaire indispensable, il se réserve 5% sur toutes les transactions. Un nouveau mania du pétrole est né.
The skills that Kalous Gulbenkian developed in raising finance.
Les compétences que Kalous Gulbenkian développa en levant des fonds et en réorganisant les entreprises de mines sud-africaines et australiennes ont été capitales dans son succès à créer ses consortiums pétroliers, ainsi que sa connaissance du fonctionnement de l'Empire ottoman et les relations qu'il y avait. Ces deux choses furent très importantes. Et troisièmement, l'expérience qu'il acquit en créant le bureau londonien de l'entreprise familiale d'import-export. Elle a été l'occasion pour lui d'apprendre comment fonctionnaient les affaires dans le Royaume-Uni et en Europe, en direction de l'Empire ottoman. C'était la troisième chose capitale.
Alors l'entreprise Turkish Petroleum TPC a été fondée en 1912. Et fait partie de la renouvellement de l'Empire ottoman après la révolution jeune turque de 1908 et tue les investisseurs du plein monde, américains, anglais, français et allemands aussi. Tout le monde se vend à Istanbul pour chasser les concessions de chemin de fer, pétrole, de banques, de tramways, électricité, tant de choses comme ça pour moderniser l'empire de Sultan. Et c'est déjà avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, on a aperçu que le Gulbenkian, lui, a convaincu les autres de se collaborer dans cette entreprise internationale.
Après la défaite allemande de 1918, Gulbenkian obtient que la France récupère les parts que détenait la Deutsche Bank dans la TPC, aboutissant à la création en 1924 de la Compagnie française des pétroles, future Total. Dans cette première mondialisation du capital, Gulbenkian vient d'assurer à la France un accès direct aux réserves de pétrole du Moyen-Orient.
It's extraordinary.
C'est extraordinaire de voir le rôle que Kalous Gulbenkian a joué dans la Turkish Petroleum Company, puis dans l'Iraq Petroleum Company, qui sont liées l'une à l'autre. Il est celui qui non seulement parvient à maintenir ses propres 5%, mais aussi à contenter les différents intérêts de chacun. Et ça, c'est extraordinaire. Car il ne s'agissait pas d'un sujet quelconque pour ces nations. Pour la France, c'était capital. La France n'avait pas d'autre pétrole, elle était désespérément dépendante de ce pétrole. Kalous Gulbenkian a joué un rôle crucial pour permettre à la France d'accéder au pétrole du Moyen-Orient. Il joua un rôle fondamental pour les Anglais, qui, depuis que Churchill avait converti la Royal Navy au moteur à pétrole, étaient complètement dépendants du pétrole pour leur puissance militaire et leur flotte. Le pétrole était donc vital pour ces nations. Et en face, vous avez un seul individu qui est un étranger, capable de faire face à ces puissances. C'est une image tout à fait saisissante. Les deux mondes étaient vraiment très différents à cette époque. Et un homme qui avait la capacité de manœuvrer dans chacun de ces mondes était d'une valeur inestimable.
Pendant l'entre-deux-guerres, Kalous Gulbenkian vit entre Londres et Paris, où il fait l'acquisition d'un hôtel particulier au 51 avenue d'Iéna, qu'il fait entièrement rebâtir pour accueillir sa famille, les services de ses différentes entreprises, mais surtout sa collection d'art qui ne cesse de s'enrichir. Une demeure musée, avec un jardin en terrasse, des volières d'oiseaux exotiques et surtout de vastes salons en enfilade dédiés à sa collection.
il va changer de son appartement de Quai d'Orsay pour Avenue d'Iéna en 27.
João Carvalho Dias, conservateur du musée.
Quand on arrive à Avenue d'Iéna, on voit que c'est une maison qui était vraiment décorée et conçue pour un collectionneur parce que les objets vont conditionner l'arrangement des pièces et tout ça. On ne peut pas penser dans un escalier d'honneur comme il y avait à l'hôtel de Gulbenkian sans la présence de Diane de Houdon. Il y a des objets qui sont vraiment... ils sont arrivés à Avenue d'Iéna exprès pour un lieu. Au Salon Rond, par exemple, la statue de Carpo à Flora, elle a fait la pièce centrale de la pièce et c'était magnifique. Alors tout est conçu, tout est pensé. Et ça, c'est pas seulement pour les objets, mais aussi pour son bien-être. Les collections, elles partageaient les espaces. M. Gulbenkian aimait ses œuvres d'art et les visitait. Il n'était pas un habitant fréquent de l'hôtel Gulbenkian parce qu'il aimait rester au Ritz. Les hôtels, pour lui, c'est le top du confort. Mais, bien sûr, quand il était à Paris, il était à Avenue d'Iéna, parce qu'Avenue d'Iéna, c'était aussi le siège du bureau. Le bureau, il a ménagé son empire. Il a toujours avoir cette idée de musée. C'est pourquoi son petit-fils n'aimait pas rentrer chez son grand-père, parce qu'il ne pouvait pas s'asseoir dans les fauteuils et tout ça, parce que c'était vraiment toutes les pièces des musées. Ce n'est pas très confortable pour un enfant.
En 1940, en tant que diplomate perse, il accompagne le gouvernement Pétain-Laval à Vichy, laissant derrière lui l'avenue d'Iéna, protégée de la réquisition par son statut de siège diplomatique. Le rapprochement de la Perse avec l'Allemagne nazie le décide en 1942 à quitter l'Europe pour l'Amérique. Mais à Lisbonne, où il doit s'embarquer, Gulbenkian, trouvant un pays neutre, décide de s'établir. C'est la ville qui accueillera sa collection et sa fondation après sa mort.
Não sei explicar quem é, acho que era um compositor de música, não sei.
Ele foi um grande colecionador de arte e não só.
Je crois qu'il était un visionnaire. Quand on lit sa description qu'il fait à l'âge de 22 ans, quand il fait son voyage en Transcaucasie,
Ana Paula Ribeiro Correia,
et que tout de suite il fait une étude complètement pionnière, où il arrive à voir ce que le pétrole va être à une époque où personne n'imaginait combien le pétrole allait être important dans les transports, et il fait cette étude. Quand je vois un petit peu ces collections de céramique bisnique, les lampes de mosquée, les textiles ou les inro, ces petites pièces japonaises, probablement il avait ce côté visionnaire aussi pour l'art.
Fondation Calouste Gulbenkian, Lisbonne.
Cette pièce, je pense que cette pièce est intéressante parce que c'est la pièce où le visiteur qui n'est pas un petit peu averti ne regarde même pas. Vous voyez, c'est un bout de tissu qui est dans une vitrine. Et pourtant, c'est un tissu perse du XVIe siècle. Regardez la trame, comme c'est fine, ça nous pose tout de suite la question de l'immense raffinement des métiers à tisser. Nous ne pensons pas non plus que le velours, qui est connu en Europe à partir du XVe siècle, le velours, il vient de Perse. Et c'est aussi un tissu qui a non seulement une prouesse de par la technique, mais regardez qu'il représente chaque fois les mêmes figures. C'est Alexandre le Grand, au Ishkandar, qui est en train de lutter contre un dragon. Il tient une pierre dans la main. Mais ça nous montre comme les tisserands perses vont arriver à construire des motifs qu'on appelle en portugais pedrão, des motifs en série, tout le temps en racontant la même histoire. Et quand on arrivera dans la salle des arts décoratifs européens, vous allez voir que les tissus qui sont ici, qui se suivent, et surtout ceux qui sont au fond de cette salle, sont toujours les mêmes motifs. Et tout de suite, on comprend le lien entre l'Orient et l'Europe à travers des arts décoratifs. Moi, je pense que dans sa tête, tout était articulé comme dans un puzzle qu'il voulait composer. Donc, ce que pour nous, dans un collectionnisme traditionnel, peut paraître une lacune, quand on connaît bien sa collection, ce n'est pas une lacune, c'est sa pensée qui est là. Et à moi, ça me fascine dans sa collection. Je trouve très intéressant de quitter l'Orient islamique, de traverser le Proche-Orient, d'entrer dans les arts décoratifs et de retrouver les textiles vénitiens exactement avec la même typologie que ce qu'on vient de quitter à Istanbul, à Broussa ou à Kashan ou en Perse. Et dans toute sa collection, ce qui semble être une lacune n'est pas une lacune, est un fil conducteur qu'il avait, mais vous le retrouvez toujours.
Ça, c'est ça, la seule vitrine consacrée à l'art arménien.
Maria Rosa Figueredo, conservatrice du musée.
Avec une Bible, une tasse avec des poissons, ça c'est chrétien. C'est la création du monde avec Eva et d'autres livres merveilleux.
Kallus Gulbenkian était arménien. Le Kallus Gulbenkian, par exemple, dans le musée, quand vous allez au musée, il n'y a pas beaucoup de choses arméniennes. Et les gens demandent pourquoi. Il y a juste une petite
Rasmik Panossian.
Section, deux, trois choses. Et ma réponse, c'est parce qu'il était dans la culture arménienne. Pour lui, ce n'est pas quelque chose de faire une collection. C'est ça sa culture, c'est sa vie. Donc il a fait une collection de les autres choses, des autres cultures. Évidemment, il était arménien. Par exemple, dans les lettres, souvent, la correspondance est en français ou en anglais. Et dans les marginalia, il écrit les choses personnelles en arménien, sur quelqu'un, par exemple, quelque chose officiel, et en arménien, il écrit « il est un idiote » ou quelque chose. Donc, pour lui, ça c'est une vie, ça c'est sa culture personnelle. Il a étudié arménien et turc, la langue familiale était arménien. La langue des affaires, c'était anglais, et la langue de la culture, c'était français. C'est typique, c'est les stéréotypes.
Diplomate turc, perse, citoyen britannique vivant à Paris, Gulbenkian est un homme de toutes les nations et semble n'appartenir à aucune. Pourtant, cet homme de l'ancien empire ottoman est profondément arménien. C'est à Londres où il a fait bâtir une église arménienne, que l'on peut mieux comprendre son attachement à ses origines et son action après le génocide de 1915.
This is South Kensington.
Nachivarach kuzem barigalust machtel zezi, subsarkis hayastaniats ekeretsin, subsarkis ekeretsin, karutsvele hazarinaur ksanyerku tvakanin, haitni.
Soyez les bienvenus dans l'église arménienne Saint-Sarkis. Cette église a été construite par Kallust Gulbenkian en 1922. Je suis le père Schnork. Je suis le prêtre de cette magnifique église Saint-Sarkis. Nous sommes dans le quartier de Kensington. Dans les années 1920, il y avait une importante communauté arménienne à Londres, et encore plus à Manchester, dans le nord de l'Angleterre. Les gens avaient collecté des fonds pour ériger une église, mais n'arrivant pas à réunir assez, ils avaient juste acheté le terrain. Ils ont alors demandé à Kallust Gulbenkian, qui venait souvent à Londres pour ses affaires, s'il pouvait les aider à bâtir une église arménienne. Ce qu'il a accepté. J'ai oublié de dire que quand Gulbenkian a accepté de construire l'église,
he insisted the church to be built as a copy of.
Il a eu beaucoup de goût car il insista pour que l'église soit la réplique du clocher de Akhbat en Arménie, un monastère du XIIe siècle.
The monastery of Akhbat in Armenia. So it's a typical Armenian architecture here.
C'est une architecture arménienne typique, très petite mais qui s'élève très haut.
That's why many Armenians.
C'est pour cela que les Arméniens aiment venir ici, parce qu'ils sentent que c'est une partie de leur culture, de leur héritage. Une part de l'Arménie, comme une petite mosaïque d'Arménie. Tous les Arméniens en Arménie connaissent le nom de Kallust Gulbenkian. Ils ont entendu parler de lui même pendant la période soviétique.
As we are a small nation, if one Armenian become famous or world famous or known, Armenians tend to like that person and talk about him.
En tant que petite nation, lorsque quelqu'un devient célèbre, les Arméniens ont tendance à l'aimer et à en parler.
We try to
show our greatness. Ce que nous avons de mieux.
It's kind of, I would say, psychology of less fortunate people who have suffered a lot during the
centuries. Je dirais qu'il s'agit d'une sorte de psychologie des peuples qui ont beaucoup souffert à travers les siècles et qui s'efforcent de survivre.
So at the time of the Armenian genocide,
au moment du génocide arménien en 1915, Kalouste Gulbenkian vivait à Londres.
Martin Essayan
et voyageait beaucoup entre Londres et Paris. C'était la Première Guerre mondiale. Les communications étaient difficiles, mais on pouvait encore voyager entre les deux.
We are very fortunate in my family, my immediate family.
Notre famille proche a eu la chance de ne pas être directement touchée par le génocide.
In the previous set of massacres in 1896, in fact just before that set of massacres.
Nous avions déjà fui juste avant les premiers massacres de 1896 qui eurent lieu à Constantinople.
Il a donné à l'appui à les survivants du génocide, les réfugiés. On dit que, par exemple, c'était lui qui a acheté le village de Anjar en Liban pour les Arméniens. C'est plus la philanthropie traditionnelle qu'il a fait. Donc, c'est dans la tradition des riches arméniens de faire ça et ça continue jusqu'à aujourd'hui.
Kalouste Gulbenkian did a number of things for the Armenian
Kalouste Gulbenkian a beaucoup fait pour les survivants arméniens du génocide.
The first was as president of the leading Armenian charity.
D'abord en tant que président de la principale fondation arménienne de charité, l'UGAR.
He was very influential and probably the leading light in moving the attention.
Il a été le moteur d'un changement de perspective pour œuvrer non plus en faveur du retour en Arménie, mais pour l'installation des réfugiés au Liban ou en Syrie. L'UGAB rencontrait beaucoup de difficultés avec le gouvernement soviétique, et Kalouste Gulbenkian, conscient de la façon dont les choses se passaient en Union soviétique, a conseillé de concentrer les efforts de réinstallation sur le Liban et la Syrie. Il a levé des fonds pour cela et donné lui-même beaucoup d'argent. La deuxième action, qui est peut-être la plus connue, à travers le livre Les 40 jours de Moussadar, est la réinstallation des populations arméniennes à Anjar. Ces réfugiés qui furent sauvés par les Français, déplacés en Égypte et n'avaient plus nulle part où aller. Kalouste Gulbenkian a acheté des terres pour eux dans la vallée de la Bekaa au Liban. Ils y ont bâti une ville dans cette zone de marais infestée par les moustiques. La première génération a été décimée par la malaria, mais grâce à l'extrême détermination du peuple, ils ont bâti cette ville. Ma femme est allée là-bas il y a quelques années. Et c'était vraiment très émouvant de voir toutes ces écoles qui portent le nom de Gulbenkian. Et d'aller au musée où est conservé le drapeau avec la croix rouge qui était accrochée au bateau d'où les gens lançaient un appel désespéré pour être sauvés. Ils furent recueillis par l'équipage d'un bateau français.
Jusqu'à sa mort, Kalouste Gulbenkian sera l'un des principaux mécènes des communautés arméniennes dans le monde. Construction de la bibliothèque du Grand Patriarcat de Jérusalem, d'hôpitaux, d'écoles et de centres culturels arméniens, notamment à Alep, en Syrie. Aujourd'hui, la Fondation Gulbenkian à Lisbonne poursuit cette œuvre. Rasmik Panossian est le directeur du service des communautés arméniennes.
Les racines sont dans les années 50 quand la fondation est créée. la service était créé pour continuer le travail que Kalous a fait avec les communautés arméniennes avant la fondation.
Quel est le budget des services de la des communautés arméniennes?
C'est à peu près 3 millions d'euros par année. Ça, c'est notre budget de programmation. Nous avons défini une mission assez large, valoriser la culture, appuyer la culture arménienne en diaspora et en Arménie, pour avoir un peuple viable où la langue est valorisée et appuyée. La première chose qui est devenue le truc principal dans notre programmation, en anglais on dit « the backbone », c'était la disparition de l'arménien occidental. Quand je suis allé au Liban, j'ai réalisé, même au Liban, on ne peut pas être certain que la langue va continuer. Les autres éléments, c'est j'ai réalisé que notre bourse scolaire sont notre signature, notre élément principal. Avec les bourses, nous avons touché les bourses scolaires. Nous avons touché à peu près 200 étudiants, plus une autre 400 étudiants qui sont les Syriens qui étudient en Arménie. Nous touchons au moins 15 ou 16 pays. Tout le monde dans le monde arménien disent que les bourses sont vraiment importantes. Et les gens qui sont dans les positions de leadership maintenant disent que oh, quand nous étions étudiants, c'était Gulbenkian qui nous appuyait, notre étude universitaire.
Est-ce qu'il y a une communauté arménienne à Lisbonne?
Non, il n'y a pas. Il y a 25-30 Arméniens ici à Lisbonne. Ils sont presque tous affiliés avec la fondation, comme les musiciens. Mais non, il n'y a pas une communauté. Les Portugais ne savent pas beaucoup de la culture arménienne. Et pour cette raison, en octobre, nous avons organisé une grande semaine des événements, la culture arménienne, les concerts, les expositions, les conférences publiques. Et il y avait beaucoup, beaucoup d'intérêt. L'auditorium était complètement rempli avec les personnes qui veulent savoir la culture de notre fondateur. Et beaucoup de gens qui finalement ont commencé à comprendre c'est qui Gulbenkian, c'était sa culture, c'est quoi sa culture et qui sont les Arméniens.
Pour eux, qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce que ça représente la fondation Gulbenkian?
Il y a une génération ici qui sont obtenu leur éducation grâce à la fondation avec les bourses. Et il faut savoir, pendant les années 60, avant la révolution ici, 70% des Portugais sont illettrés. Donc, la fondation a joué un rôle très important pour encourager la lecture et ils ont obtenu les bibliothèques mobiles qui sont allées du village à un autre village qui donnaient les livres et chaque mois, ils sont allés faire un tour dans tous les pays et les gens se souviennent de ça, que c'était Gulbenkian qui nous donnait les livres pour lire. Ça reste une dans le garage, vous pouvez aller voir si vous voulez. C'est une ancien Citroën.
La Fondation Gulbenkian, dotée d'un budget de 3 milliards d'euros, œuvre donc pour les communautés arméniennes, en plus de ses quatre missions. La bienfaisance, le soutien à la recherche scientifique, l'éducation et les arts. Dans son pays d'élection, elle s'est révélée jouer un rôle fondamental.
C'est magnifique. Alors, où est-ce qu'on est ici?
Nous sommes dans la dernière bibliothèque, bibliobus d'un réseau qui a commencé en 1958.
Maria Helena Borges, responsable du programme pour la langue et la culture portugaise.
62 bibliothèques?
Oui.
Et quel était leur rôle? Qu'est-ce qu'elles faisaient?
Chaque bibliothèque, chaque camionnette avait 2000 livres. Elle faisait des visites aux endroits les plus loin du centre des principales villes du Portugal, chaque 15 jours, ou soit chaque mois. On parle du Portugal des années 60. Et c'était très, très difficile la vie dans ces temps-là. Cette histoire de réseau des bibliothèques itinérantes de Fondation Carlos Gulbenkian était une espèce de boomerang, de bombe dans la vie culturelle du pays. parce que, imaginons un village avec des routes en terre. C'était très difficile de sortir de là. Et un jour, les gens voient s'approcher une camionnette grise, pareille à les camionnettes qui enlevaient les fous, et les gens étaient en panique. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire? Et la camionnette s'arrêtait toujours près de l'église. Il ouvrait ses portes et elle était pleine de livres. Il y avait des livres pour les jeunes gens, les enfants trop petits, des romans, des théâtres, philosophie, tout ça. Et aussi des livres plus techniques, bricolage, de cuisine, tout ça. Et les gens, au début, elles n'étaient pas à l'aise avec cette histoire parce qu'on ne payait même rien pour amener 3 livres chaque fois que la bibliothèque s'arrêtait. Et un jour, quelque part au nord du Portugal, quand la bibliothèque s'approchait dans le village pour la deuxième fois, le chauffeur voit au loin de la fumée. C'était le prêtre qui a fait un acte de foi. Il a brûlé tous les livres. Mais 2 fois ça arrivait.
Qui avait eu l'idée de créer ce service des bibliothèques itinérantes?
C'est un écrivain, Brinquim de Fonseca. Et il a fait une camionnette, une seule. Et quand il a vu la création de Gulbenkian, il a apporté une proposition au président de Gulbenkian, que c'était M. Zérit Perdigão. Il a dit, vous êtes les seuls qui peuvent faire la différence au Portugal avec un réseau de bibliothèques itinérantes. Ça, c'était Zérit Perdigão, Brinquim de Fonseca et Salazar. Il était là pour les bibliothèques.
Et Salazar, qu'est-ce qu'il pensait de ce projet des bibliothèques itinérantes? Il a laissé faire?
Il a laissé faire. Oui, Salazar a laissé faire le projet. Pour nous, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. C'était la révolution, hein? La révolution culturelle, parce que Salazar savait, il était très intelligent, et il savait très bien que ça allait changer les mentalités. Parce que finalement, tous les gens avaient le droit d'avoir les livres qu'ils voulaient. Parce qu'il n'y avait pas de censure ici. On avait tout. On avait tout. Je crois que la plupart des gens au Portugal ne savent même pas qui était Carlos Gulbenkian. La seule chose que les gens savent, c'est que M. Gulbenkian a laissé quelque chose qui a donné au Portugal, pendant beaucoup de temps, le vrai ministère de la Culture.
I believe he's dead, but yeah, I know him. His foundation is an extremely important place. The foundation is a lot about culture and the music. And we have great joy in going to the concerts at the institute. Yes.
Well, I don't know that much about him. I know that he donated all his collection to the Portuguese state.
Lettre extraite de la correspondance entre Calouste Gulbenkian et Saint John Peirce, qu'il y a les deux hommes de 1946 à 1954. Lisbonne, 11 novembre 1950. L'avenir de ces tableaux, auxquels j'ai donné le meilleur de moi-même, me tourmente continuellement. Où ? À quelle institution les confier ultérieurement ? Tant d'autres questions. Vous connaissez tous les aspects de mon problème. Et je vous serai si reconnaissant de m'aider par vos conseils et suggestions à le résoudre. Je me suis jusqu'à présent réservé l'entière liberté d'en disposer à mon gré, mais comment faire pour leur assurer un abri permanent, me donnant toutes les garanties qu'ils y seront heureux ? Réponse de Saint John Perse à Calouste Gulbenkian. Cher ami, votre problème à résoudre aujourd'hui est celui d'une destination finale à concilier avec la sécurité immédiate ou future de vos œuvres d'art. Pour la destination finale, le souci primordial, me semble-t-il, doit être de sauvegarder l'unité de l'ensemble de votre collection, qui vaut organiquement par l'étendue et la diversité de sa composition, autant que par la qualité et la richesse de ses dotations. La formule la plus facile et la moins onéreuse serait évidemment de léguer partiellement la collection à un ou plusieurs musées nationaux, comme le Louvre et nos musées d'orientalisme, la National Gallery et le British Museum de Londres. Mais quelle tristesse qu'une telle division, désintégrant la collection Gulbenkian, jusqu'à ne plus rien lui laisser de son propre caractère, de son autorité personnelle. La formule la plus digne d'une telle collection serait certainement son érection en fondation indépendante.
Toute sa vie, Calouste Gulbenkian a eu le souci du sort de sa collection. Mais aucun des grands musées auxquels il avait prêté ses œuvres ne lui apportèrent les garanties qu'il souhaitait. Ce fut finalement Salazar, conscient de la fortune qui était rattachée à la collection, qui les lui donna, et, malgré la dictature, Calouste Gulbenkian choisit d'établir sa fondation à Lisbonne. Maria Rosa Figueiredo
est très connue aujourd'hui et elle était même appelée le ministère de la Culture du Portugal à ce moment. C'était encore Salazar qui était là, n'est pas tombé de sa chaise encore. Et c'était du fascisme. Et la culture, c'était une chose qui était même pas permise par le gouvernement. Je me rappelle que mon frère, qui était à l'école des Beaux-Arts, pour obtenir des livres d'études sur certains artistes, tout était interdit. C'était très, très difficile. On n'imagine pas comment était de vivre à ce moment-là. Et mon frère, qui était merveilleux, jeune garçon, il a passé quelques 13 ans dans la prison, ce système.
Alors, ça vous a plu?
Ah, c'est fabuleux. Tout ce qui concerne Babylone, il y a quelques très belles pièces. Plein de belles pièces, très 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 belles collections. Plus belles qu'en Turquie, par exemple. Fabuleux. Et comme tous les grands collectionneurs, il n'a pas voulu casser sa collection. Et ça, ça montre que c'est un vrai collectionneur. Qu'il a vraiment voulu collectionner et voulu réussir une collection. Il y a de très beaux turners aussi. Absolument fabuleux. C'est un fantastique trésor pour le Portugal. J'ai payé mon billet d'avion aujourd'hui. J'ai augmenté mon billet d'avion tellement c'est beau.
Vous voyez, c'est le changement de matériel. Nous, on quitte la pierre et on rentre dans quelque chose beaucoup plus chaud, qui rappelle les intérieurs. On arrive en Europe. Et comme la collection commence par la Renaissance, et après nous arrivons dans le baroque, regardez qu'il y a toujours le jardin, on ne quitte jamais le jardin. Il y a toujours la relation avec l'extérieur. Mais en même temps, on est dans une ambiance complètement différente.
Ana Paula Ribeiro Correia.
Gulbenkian s'est beaucoup intéressé par la peinture. Il aimait tout, il a collectionné un peu de tout. Vous allez voir à la fin du musée que la collection est très très vaste. Mais la peinture avait un rôle très important. Et c'est vrai que nous arrivons à retracer pratiquement l'histoire de la peinture européenne en traversant les salles de la collection. Nous pouvons parler de portraits, de paysages, de toute la différence entre le gothique et la Renaissance. En fait, tous les moments clés, ils sont représentés dans la collection. Ça, c'est le fameux portrait, le portrait d'Hélène Fourmont, que M. Gulbenkian aimait tant et dont on raconte qu'il regardait quotidiennement. C'est une peinture qui a appartenu aux collections de Catherine de Russie et qui représente la deuxième femme de Rubens, Hélène Fourmont. Mais à nouveau, c'est une peinture que dans l'histoire du portrait, dans l'évolution du portrait, est très importante. Regardez comme Rubens a peint Hélène Fourmont à l'échelle monumentale. Donc c'est presque une taille
réel. Et regardez comme il a innové dans le traitement du paysage. Si vous enlevez le personnage, vous comprenez tout de suite Turner et les impressionnistes après. C'est très, très, très moderne. C'est à nouveau un moment charnière dans l'histoire de la peinture, comme le vieux de Rembrandt qui est là.
La beauté. La beauté, c'était sa principale question. Et après la beauté, ce que le désir pour avoir une pièce, c'était très, très important. Et après, il achetait seulement si l'œuvre d'art était en très bon état de conservation. Sinon, il n'achetait pas. Ses affaires occupaient beaucoup de temps. Mais son désir plus grand, sa passion, c'était les œuvres d'art.
Dont Marie-Rose Figueiredo vous a parlé, la fameuse Diane de Houdon, qui était dans la maison de M. Gulbenkian, avenue d'Iéna. Elle est placée à cette place, à cet endroit du musée, parce que regardez qu'elle est à nouveau en contact direct avec le jardin. Quand on a fait l'édifice et son intégration dans le jardin, on voulait qu'on puisse découvrir les espaces petit à petit. C'est-à-dire que tout l'édifice est bâti en horizontalité. Vous découvrez l'édifice et les espaces du jardin simultanément. Vous n'avez jamais des grands obstacles, pas quelque chose qui puisse contrarier un certain plaisir de la contemplation. Ça, quand on est dehors, on comprend ça très, très bien.
Lettre de Saint John Perse à Calouste Gulbenkian, 1949. Vous m'avez enchanté en me disant votre plaisir de retrouver les enclos. C'est là votre poème, votre création intime, et comme un chant derrière votre œuvre de bâtisseur. Quand on a réalisé ce que vous avez eu à maîtriser et que vous avez encore à défendre par l'intelligence et par la volonté, que peut-on goûter de mieux humainement que cette fraîcheur de source que vous avez su vous ménager là, pour la récréation de l'esprit et du cœur, comme une intimité de femme harmonieusement mêlée au cours même de la vie naturelle, de la vie immortelle. Que vos feuillages salutaires et tout ce qui s'ordonne ou s'anime sous votre regard d'artiste vous libère là de l'ennui de tant de choses vaines. J'aime votre conception d'une très petite maison. C'est la sagesse de s'assurer le très grand luxe de ce que les romantiques appelaient une folie.
Cette conception très réussie de l'architecture et de la nature, elle apporte une dimension esthétique tellement harmonieuse et tellement équilibrée que elle arrive à retirer de tous ceux qui traversent l'espace ici, du parc, ce qu'ils ont de meilleur. Quand vous êtes ici, vous avez l'impression que tout le monde a retrouvé un moment d'harmonie. Regardez, je suis en train de vous parler, on est entouré de plein de gens. Regardez, ils sont tous ici, on n'est pas seul. Et vous sentez que tout le monde est touché par ce moment de contemplation. Même dans les couleurs, regardez, je ne sais pas quelle heure il doit être presque 5 heures. Et regardez aussi cette réussite d'imposer le béton au milieu d'un lac. Et le béton est en harmonie avec la nature. C'est un projet qui a atteint un équilibre absolu.
J'ai vu sa voiture de Calouste Gulbenkian, c'est une Mercedes, c'est une édition limitée, une édition unique, c'est tout ouvert, c'est pour voir la lune et les étoiles.
Le jardin?
Le jardin, oui. Très joli.
C'était en regardant le ciel. Et peut-être se souvenant à ses pensées comme jeune homme à Londres, de faire ses études à Paris sur l'astronomie, sa vie se tourne en cercle un peu. Et je crois que c'est peut-être le ciel et les étoiles, les constellations qui ont remplacé les œuvres d'art comme source de consolation dans ces dernières années.
C'était Une vie, une œuvre, Kalouste Gulbenkian. Avec Martin Essayan, Rasmik Panosyan, João Carvalho Dias, Maria Rosa Figueiredo, Ana Paula Ribeiro Correia, Maria Elena Borges, Jonathan Conlin, Schnork Bagdasarian. Lecture Jean-Yves Berthelot, voix de traduction Benjamin Habitant. Prise de son Fong Maltran, mixage Manu Couturier. Remerciements à tous les membres de la Fondation Gulbenkian. Un documentaire d'Élise Gruau et Manouchak Fachaï.
C'était Une vie, une œuvre, une émission proposée par Martin Kénéen avec la complicité de Claire Poinsignon. Podcast, réécoute, commentaires et précieux compléments sur franceculture.fr. La semaine prochaine, dans Une vie, une œuvre, le génial pianiste Glenn Gould. Et dans un instant, sur France Culture, c'est Le temps des écrivains de Christophe Onodibio.